Chapitre 4. Les mois ont passé. Depuis l'horrible nouvelle, Maria n'a pensé à aucun moment que sa vie était finie, ou que le monde allait être pour elle un douloureux désert sans François Paradis. Elle réalisait ses tâches quotidiennes comme de coutume, mais elle était malheureuse et elle savait que ce chagrin allait durer. Un jour, début mars, Tite B, qui revenait de Honfleur, a déclaré qu'il y avait le soir, chez Ephrem Surprenant, une grande veillée et qu'ils étaient invités. Quelqu'un devait rester garder la maison. Tite B s'est aussitôt proposé. Honfleur, le village le plus proche de leur maison, était à 8 000 de distance. C'était peu en traîneau et en bonne compagnie. Il y avait du monde chez Ephrem Surprenant. Plusieurs habitants du village d'abord, puis les trois Français qui avaient acheté la terre de son neveu Lorenzo. Et enfin, à la grande surprise des Chapdelaine, Lorenzo lui-même, revenu encore une fois des États-Unis pour ses affaires d'héritage. Il a accueilli Maria avec une grande amabilité et s'est assis à côté d'elle. Les visiteurs se sont mis à parler du temps, de l'état des chemins, des nouvelles de la région. Puis Samuel Chapdelaine s'est tourné vers les trois Français et leur a demandé « Alors, vous voilà ici pour travailler la terre ? Comment trouvez-vous le Canada ? C'est un beau pays, neuf, vaste. Il y a beaucoup de mouches en été et les hivers sont pénibles. Mais je suppose que l'on s'y habitue peu à peu. Dans votre pays, avant de venir ici, vous étiez cultivateur aussi ? Non, j'étais accordeur de piano, a dit le père. Et mes deux fils étaient employés, Edmond dans un bureau et Pierre dans un magasin. Pourquoi êtes-vous venu ici ? A demandé quelqu'un. On n'est pas toujours heureux dans les villes, a répondu le père. Tout est cher, on vit enfermé. Est-ce que vous imaginiez le pays, la vie ici, comme ça ? A demandé à nouveau Samuel Chapdelaine. Pas tout à fait, a répondu le Français à voix basse. Non, pas tout à fait. Quelque chose est passé sur son visage, qui a fait dire à Ephrem Surprenant « Ah, c'est dur ici, c'est dur !» Ils ont fait oui de la tête tous les trois et ont baissé les yeux. La mère Chapdelaine a alors déclaré pour les encourager « C'est difficile au début, quand on n'est pas habitué. Mais vous verrez que, quand votre terre sera bien avancée, vous aurez une belle vie. » « C'est drôle, » a remarqué un des visiteurs, « comme chacun a du mal à se contenter. Voilà trois personnes qui ont quitté leur pays et qui sont venues de bien loin pour s'établir ici et cultiver. Et moi, je me dis toujours que ça doit être bien agréable de travailler tranquillement, assis dans un bureau toute la journée, à l'abri du froid et du gros soleil. » « Chacun a sa façon de voir les choses, » a décrété Lorenzo Surprenant. « Et ta façon à toi, ça n'était pas de rester à Honfleur à suer à grosses gouttes ?» a dit quelqu'un d'autre en riant. « C'est vrai, et je ne m'en cache pas. Je ne voulais pas travailler la terre. C'est une bonne terre, personne ne peut dire le contraire, mais je me sens bien où je vis maintenant et je n'ai pas envie de revenir. » La mère Chapdelaine secouait pourtant la tête. « Ne dites pas ça. Il n'y a pas de plus belle vie que celle d'un habitant qui a une bonne terre. » Pas dans cette région, Madame Chapdelaine. Vous êtes trop loin vers le nord. L'été est trop court. Le grain a à peine poussé que les froids arrivent. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens restent ici et ne vont pas à des endroits où la vie est moins dure, où on trouve tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie, et où on peut sortir l'hiver et aller se promener sans avoir peur de mourir. Sans avoir peur de mourir. En entendant cette phrase, Maria a tout à coup frissonné et à penser aux horribles secrets sinistres que cache la forêt verte et blanche. C'est vrai ce que disait Lorenzo Surprenant. C'était un pays sans pitié et sans douceur. On a continué à parler de choses et d'autres, puis on a joué aux cartes. Mais il était temps de partir pour les Chapdelaine. Avant le départ, Lorenzo a dit à Maria, à demi-voix, « Demain, c'est dimanche. J'irai vous voir l'après-midi. » Le lendemain matin, le soleil brillait sur la neige. Lorenzo, comme promis, était de nouveau près de Maria et parlait de sa merveilleuse vie aux États. « Oh, Maria, vous ne pouvez pas vous imaginer. se promener sur les trottoirs des grandes rues un soir, quand la journée de travail est finie, les lumières de la ville, les chars électriques qui passent tout le temps, les magasins, le monde, et tous les plaisirs qu'on peut avoir, le théâtre, les cirques, les journaux avec des images, et le spectacle prodigieux des cinématographes. Ils marchaient ensemble sur la neige, les raquettes aux pieds, près de la berge haute de la rivière Péribonka, au-dessus de la chute. Lorenzo, surprenant, n'avait pas eu de difficulté pour que Maria sorte avec lui. Il le lui avait demandé simplement devant tous, et maintenant, il lui parlait d'amour avec la même simplicité directe et pratique. « Le premier jour que je vous ai vu, Maria, le premier jour, c'est vrai. Ça faisait un certain temps que je n'étais pas revenu ici, et je me disais que c'était un endroit misérable pour vivre, que les hommes étaient une gangue de simples peu cultivés, et que les filles n'étaient sûrement pas très fines ni élégantes. Et en vous regardant, je me suis dit tout d'un coup que c'était moi qui n'étais qu'un simple, parce que ni à Lowell, ni à Boston, je n'ai vu de filles comme vous. C'est pour vous que je suis revenu, Maria, revenu de Boston jusqu'ici. 3 jours de voyage. Les affaires que j'avais, je pouvais les faire par lettre. C'est pour vous que je suis revenu, pour vous dire ce que j'ai à dire, et savoir ce que vous allez me répondre. Ici, ce n'est pas un endroit pour vous, Maria. Le pays est trop dur, et le travail est dur aussi. Là-bas, dans les manufactures, fine et forte comme vous êtes, vous pouvez gagner presque autant que moi. Mais si vous devenez ma femme, vous n'aurez pas besoin de travailler. Je gagne assez pour deux. Nous pourrons avoir une jolie maison en briques, avec le gaz, l'eau chaude et toutes sortes de choses pour vous faciliter la vie. » Il a hésité, puis a poursuivi. « Je vous aime, Maria. Si vous voulez bien m'épouser comme je vous le demande, je vous emmènerai dans des endroits agréables où il fait bon vivre, pas comme ici. » Maria n'a pas dit un mot. Pourtant, chacune des phrases de Lorenzo surprenant faisait battre son cœur. Ce n'étaient pas les déclarations d'amour qui la touchaient le plus, et elle savait qu'elles étaient sincères et honnêtes, mais les descriptions qu'il faisait de cet endroit lointain. Elle avait envie de poser des questions sur les maisons, les magasins, la vie là-bas, mais elle est restée silencieuse. Lorenzo l'a longuement regardée tout en marchant à côté d'elle, sur la neige, mais il n'arrivait pas à deviner ce qui se passait dans son cœur. « Vous ne voulez pas, Maria? Vous n'avez pas d'amitié pour moi, ou bien c'est que vous ne pouvez pas vous décider ?» Comme elle ne répondait toujours pas, il a ajouté « Vous n'avez pas besoin de dire oui tout de suite, bien sûr. Vous me connaissez depuis peu de temps. Mais pensez à ce que je vous ai dit. Je reviendrai, Maria. C'est un grand voyage et qui coûte cher, mais je reviendrai. » Ils sont ensuite rentrés chez Maria, puis Lorenzo est parti. Personne n'a posé de questions à Maria, ni ce soir-là, ni les soirs suivants. Mais quelqu'un de la famille a dû parler à Eutrope Gagnon de la visite de Lorenzo surprenant et de ses intentions évidentes, car le dimanche d'après, Eutrope est venu à son tour, après le repas de midi, et Maria a entendu une deuxième déclaration d'amour. François Paradis était venu en plein été, descendant du pays mystérieux situé en haut des rivières. Le souvenir des mots très simples qu'il avait prononcés était mélangé à celui du grand soleil, des bleuets mûrs. Après lui, Lorenzo surprenant avait apporté le mirage des belles cités lointaines et de la vie qu'il offrait, riche de merveilles inconnues. Quant à Eutrope Gagnon, quand il a parlé, il l'a fait timidement, comme découragé à l'avance, comprenant sans doute qu'il n'avait rien d'extraordinaire à offrir à la jeune fille. Il a commencé par demander à Maria de venir se promener avec lui, mais quand ils ont voulu sortir, ils ont vu que la neige tombait. Maria a fait le geste de vouloir rentrer et lui, ne voulant pas laisser échapper l'occasion, s'est mis à parler tout de suite. « Vous savez bien que j'ai de l'amitié pour vous, Maria. Je ne vous en avais pas parlé avant, d'abord parce qu'il faut que ma terre donne plus pour pouvoir vivre décemment tous les deux, et ensuite parce que j'avais deviné que c'était François Paradis que vous préfériez. » Mais maintenant qu'il n'est plus là et que ce garçon des États est après vous, je me suis dit que je pouvais peut-être tenter ma chance. Je ne suis pas riche, bien sûr, mais vous savez que j'ai une bonne terre. Je vais travailler dessus tout le printemps et quand mai viendra, je pourrai semer sur une grande partie. Si nous avons une année ordinaire, je ferai sans doute une bonne récolte. Et pendant l'été, avant la moisson, je pourrai construire une belle petite maison, chaude et solide. J'ai le bois tout prêt pour cela. Mon frère m'aidera et peut-être aussi Esdras et Dabé quand ils seront revenus. Je pense qu'après l'hiver, si vous voulez m'attendre, nous pourrons commencer notre nouvelle vie. Maria l'écoutait sans le regarder. C'était tout ce que Trobe-Gagnon avait à lui offrir. Attendre un an et puis devenir sa femme et continuer la vie de maintenant dans une autre maison de bois. Faire le ménage et l'ordinaire, s'occuper des vaches, prendre une demi-heure de repos parfois l'été, assise dehors, ou bien l'hiver, regarder la neige tomber sur la campagne déjà blanche et sur le bois. Non, elle ne voulait pas vivre comme cela. « Je sais bien qu'il faudra travailler dur au début, » continuait Eutrope. « Mais vous êtes courageuse, Maria, et moi aussi. Si vous voulez bien m'épouser, je serai heureux de faire une belle terre pour bien vivre avant d'être vieux. L'amitié que j'ai pour vous est tellement forte. » Maria ne répondait toujours rien. Pour la deuxième fois, un jeune homme lui parlait d'amour et mettait dans ses mains tout ce qu'il avait à donner. Et pour la deuxième fois, elle écoutait et restait muette. Elle a enfin secoué la tête et a dit « Je ne peux rien vous dire, Eutrope, ni oui ni non. Pas maintenant. Je n'ai rien promis à personne. Il faut attendre. » C'était plus qu'elle n'en avait dit à Lorenzo surprenant.